Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, l'Union soviétique, est décédé. Et certains en Occident s'en souviennent mieux, sans doute, que les Russes eux-mêmes. Nous allons retrouver une évocation ici à travers le propos de Vladimir Fedorovski, ancien diplomate pendant la glasnost et la perestroïka. Il publiait en décembre dernier le roman vrai de Gorbatchev. Et au passage, vous allez l'entendre, avant la guerre en Ukraine, il entendait déjà le bruit des bottes.
La première, le fin mot. Eddie Kakelbergs.
En raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Je reste fidèle à mes principes.
Il est considéré comme l'homme qui avait fait trop de concessions à l'Occident, qui avait retiré les troupes d'Europe centrale sans obtenir en contrepartie des garanties sur l'extension de l'OTAN, à qui on impute d'avoir fait sauter l'Union soviétique. Il était un peu tombé dans l'oubli, une sorte de mépris sur la grande majorité de la population russe.
Le fin mot
sur la première.
Bonsoir Vladimir Fedorovski.
Bonsoir.
Vous qui l'avez bien connu, est-ce qu'il est arrivé à la tête du Parti communiste d'Union soviétique en se disant « il faut tourner une page » ?
Je crois bien qu'il y avait toute une équipe qui voulait transformer l'Union soviétique, transformer le monde. La mission était grande parce qu'on a voulu sortir de la guerre froide, on a voulu un monde beaucoup plus sûr. Et ça, c'était un pari très difficile, mais néanmoins, il l'a lancé.
C'est un homme au psychisme impénétrable. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous ne pensez pas connaître vraiment Mikhail Gorbatchev ?
Gorbatchev, c'est un homme à multiples facettes. Il a brouillé les pistes consciemment. Quand il a lancé son projet, il a brouillé les pistes et puis au fur et à mesure se transformait. C'est un grand acteur d'un moment le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, son ambiguïté, ça fait partie de l'histoire.
Son héritage et sa personne sont beaucoup plus critiqués aujourd'hui en Russie.
En Russie, c'est un des personnages les plus haïs de l'histoire de la Russie. Et ça, c'est un facteur à prendre en compte, évidemment. En revanche, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a proposé au monde un concept de l'équilibre de l'intérêt. Il a proposé aussi à l'Europe quelque chose de création de pôles indépendants. Il a bien compris à l'époque, Mitterrand, qui a parlé aussi de la maison commune par Kohl, par beaucoup de gens. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est haï en Russie.
Si l'on devait s'attarder à un moment aussi sur la rivalité constante du Parti communiste chinois avec le Parti communiste d'Union soviétique entre Russes et Chinois, on dirait qu'aujourd'hui, en Chine, on dit il faut faire de l'ouverture, mais surtout pas comme Gorbatchev, on se méfie de cette fameuse glasnost et perestroïka.
Bien sûr. Les Chinois, ils sont tout à fait persuadés que Gorbatchev était naïf. Il n'a pas pris en compte le désir de l'Occident, puisque l'Occident ne voulait pas détruire l'Union soviétique, le communisme, il voulait détruire la Russie. Il pense que cette naïveté a coûté très cher et c'est pour ça qu'il annonce qu'il faut vraiment faire l'ouverture économique et en même temps stabiliser le système politique. C'est à peu près ce que Poutine aujourd'hui pense et finalement beaucoup de gens pensent aussi. Mais Gorbatchev, il a fait un pari assez insensé qui a transformé le monde et je pense qu'à l'avenir, compte tenu qu'aujourd'hui le monde est dans l'impasse, rien que la gestion coronavirus en Europe le prouve, évidemment à l'avenir va lui rendre hommage.
Pragmatique, visionnaire ou idéaliste Gorbatchev ?
Il était idéaliste surtout. Il a surestimé l'intelligence occidentale. Franchement, c'est pas l'Occident qui a tué le communisme. C'est Gorbatchev et finalement aussi les dissidents de là-bas qui ont tué. L'Occident a eu un cadeau extraordinaire à ce moment-là sur le plan géopolitique. On aurait pu construire un nouveau monde. L'alternative qu'a proposé Gorbatchev n'était pas si bête que ça. L'alternative était bien réfléchie. Et je pense qu'il cherchait l'équilibre des intérêts. La période de sortie du communisme que Gorbatchev symbolise, c'était une période, une des plus grandes percées, vraiment, de l'histoire de l'humanité vers la liberté, mais le post-communisme, c'est un désastre. Ça a donné le monde d'aujourd'hui avec vraiment la destruction de droit international, avec les interventions partout, avec l'élargissement de l'OTAN, contrairement aux promesses qui ont été faites au Gorbatchev. Bref, tout ça, toutes ces choses-là qui nous ramènent à une période, une des plus dangereuses de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et il y a une grande différence, mais c'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait les distinctions entre la propagande et la politique réelle. Il y avait des gens compétents. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurs d'une part, et d'autre part, les gens mentent et croient à leurs mensonges, et ça, c'est très dangereux.
Est-ce que le système soviétique était de toute façon condamné à disparaître? Est-ce qu'il était à bout de souffle quand Mikhail Gorbatchev arrive après Andropov et Tchernenko?
Non, pas du tout, pas du tout. Le système soviétique n'était pas au bout de souffle, mais Gorbatchev, il a proposé la gestion qui n'était pas soviétique. Il voulait sortir de la logique du système soviétique, qui est une logique chinoise, des systèmes autoritaires, totalitaires dans les réalités. Pour que le système fonctionne, il faut utiliser la terreur. Ça fait partie du jeu. Si vous n'utilisez pas le Tiananmen, tout s'écroule. Et Gorbatchev, comme il ne voulait pas tuer, il a voulu sortir de cette hantise du monde qui était basée sur la force. Et il a essayé de proposer l'équilibre des intérêts. Je pense qu'à l'avenir, dans beaucoup de domaines, que ce soit climat, toutes les questions qui concernent la transformation de l'humanité aujourd'hui vers le monde plus vert, tout ça c'est une nécessité. Malgré le fait qu'il est taillé aujourd'hui en Russie, son message, qui est un message de l'avenir, sera apprécié dans beaucoup de domaines et certainement plus rapidement qu'on le pense.
Alors, vous nous parlez également des personnages proches de lui, vous en avez été témoin. Il y a évidemment celui qu'on va qualifier de numéro 2, Yakovlev, qui est quelque part l'inventeur, le concepteur même de ces grands mots que l'on connaît maintenant, perestroïka, glasnost.
Mais c'est un inventeur de la sortie du communisme, c'est un concepteur. Pour moi, c'était vraiment les personnages shakespeariens, parfois balzaciens. Il a proposé des choses absolument insensées, inimaginables. Et il a transformé notre vie. Les Solzhenitsyn étaient publiés, Pasternak était publié, il y avait la liberté de la presse. Jamais on a connu la liberté de la presse. Parce que vous savez, je vais vous dire, non seulement en Russie, quand Poutine verrouille, là-bas, comme vous le savez bien, mais vous aussi, en Occident, vous vivez dans le monde politiquement correct. Vous répétez la même chose, vous mentez et vous croyez. Vous comprenez, il y a le message sur Glasnost, la liberté de la pensée, en dehors de politiquement correct, en dehors des sentiers battus, qui est un message absolument extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre ces années. Et revenir à ça, autrement on va vers la guerre.
Vous avez réécrit, réécouté et restitué tout ce qui était les heures de la chute du mur de Berlin. Et vous nous racontez le rôle incroyable de Raïssa Gorbatcheva, l'épouse de Mikhail Gorbatchev, son grand amour. C'est elle qui va finir par le convaincre de ne pas utiliser la répression des mouvements, parce qu'il y avait, vous le rappelez, 500 000 soldats soviétiques en Allemagne de l'Est.
Absolument, vous savez, je vais vous dire, encore une fois, on reconstitue l'histoire. On pense que l'histoire s'est jouée au mois de novembre avec la gaffe de porte-parole est-allemande, etc. C'est des bêtises. Tout était décidé encore au mois de juin. Je sais pertinemment qu'il y avait un plan de KGB qui était ainsi. D'ailleurs, les Allemands ont insisté, les Allemands de l'Est ont insisté pour faire la répression. Mitterrand, par mon intermédiaire d'ailleurs, a transmis le message dans ce sens-là, en demandant de Gorbatchev arrêter ce processus. Thatcher était contre la réunification, etc. Et le plan était discuté d'une manière très rude. Avec quatre personnes, Gorbatchev jouait un rôle arbitre. Pour abréger, c'était le KGB et l'armée d'un côté, Yakovlev, si vous connaissez, ministre des Affaires étrangères, Chevrenazet, de l'autre. Et il jouait le jeu. Gorbatchev faisait semblant qu'il était un arbitre. En réalité, il était toujours en faveur de la liberté. Mais bref, quand le moment le plus dur, il a arrêté. Et comme Raïssa a détesté qu'il revient à Guinée en retard, il est passé en Guinée. Et là, Yakovlev est à la côte d'Uni. Il était de bon rapport avec Raïssa. Il l'a rappelé tant que Gorbatchev allait dans sa dacha. Il lui racontait l'histoire. Il a dit, bien sûr, on peut faire comme demande le KGB et l'armée à utiliser la force, mais dans ce cas-là, nous sommes otages du KGB et de l'armée, ils vont nous chasser au pouvoir et peut-être nous tuer. Il y avait un long silence au bout du fil. Après, Gorbatchev est venu, il a mangé le plat de résistance, borscht, et au dessert, ils ont discuté ça, et c'est à ce moment-là, vraiment, le destin de la réunification d'Allemagne était scellé. Les Russes ont décidé de ne pas intervenir. Après, il y avait l'argent que Kohl a proposé, évidemment. Kohl l'a joué d'une manière habile. Mais la décision principale, il y a des moments fatidiques, les moments étoilés de l'histoire de l'humanité. C'est un des moments étoilés de l'histoire de l'humanité qui s'est passé là-bas, et je raconte ça, je crois, la première fois.
Vous racontez effectivement cette entrevue aussi entre Mikhail Gorbatchev et Helmut Kohl. Vous dites que c'est une entrevue très arrosée et vous nous apprenez que Gorbatchev ne supporte pas l'alcool. Mais qu'en tout cas, au moment où le repas est bien avancé, Kohl dit de manière, en tutoyant d'ailleurs Mikhail Gorbatchev, que l'histoire est écrite de la réunification allemande et surtout qu'ils sont prêts à payer. Et vous dites un bout de silence, et Gorbatchev dit... Combien ? Ça signifie que...
C'est un moment extraordinaire. Ils ont bien dîné, c'est Kohl, il a dit. En plus, nous sommes prêts à payer. Gorbatchev a gardé un silence, une minute, un long silence. Et après, il a dit combien ? Et là, c'était le point final. Ça, c'est joué au mois de juin 89. Et tandis que l'histoire de la façade pour la galerie, ça s'est passé au mois de novembre. Vous comprenez, Gorbatchev, il a passé 6 ans au Kremlin, mais il a transformé le monde. Et je vous assure, c'est un message pour le monde de demain. Et c'est un message pour nous tous, parce que ça doit nous rappeler que nous vivons aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, avec beaucoup d'amateurisme dans la politique, dans la géopolitique, et même dans la gestion du coronavirus.
Рональд Рейган для меня великий президент, ибо с ним...
Рональд Рейган, pour moi, est un grand président avec lequel la direction soviétique de l'époque a pu nouer le dialogue, un dialogue très important, très difficile.
Он оказался тем самым государственным деятелем, который, несмотря на...
Je considère Рейган comme un homme d'État qui, malgré tous les désaccords, malgré les confrontations qui existaient à l'époque, a permis de développer les relations normales entre nos deux pays.
Vladimir Fedorovski, vous ne cachez pas non plus combien, en face de Mikhail Gorbatchev, à l'extérieur, il y a une personnalité qui est Ronald Reagan, et avec le futur président George Bush Senior, patron de la CIA. Vous dites qu'ils ont à la fois monté avec l'Arabie Saoudite une façon de faire chuter les prix du pétrole qui était essentiel dans l'économie soviétique, et d'un autre côté, Reagan réussit ce fameux coup de bluff de faire croire à une guerre des étoiles, à une course nécessaire qui va complètement affaiblir l'économie soviétique.
Bien sûr, mais vous savez, ça nous ramène à des réflexions qui touchent la France ou d'autres pays. Est-ce que le président doit être intelligent ou pas ? Je dis que non, Reagan n'était pas intelligent, mais il a un flair extraordinaire. Il sentait les choses, il a pointé pour affaiblir l'Union soviétique et pour affaiblir la Russie, franchement. Leur erreur, franchement, c'est de vraiment, au lieu d'associer la Russie après la chute du communisme, c'est aussi d'essayer d'affaiblir la Russie. Mais bref, pour ça, ils ont choisi les points. C'est le pétrole, négociation secrète entre Bush, le roi de l'Arabie saoudite, pour baisser le prix. D'autre part, le bluff extraordinaire qui était connu aussi grâce à Farwell, un agent français, assez énigmatique, qui a fait savoir tout ça, ça a réussi. Et après, il y a l'erreur monumentale qui est due malheureusement aussi à Reissa, puisque son frère était alcoolique. Ils ont lancé la campagne de la fille alcool. Et deux sources principales du budget russe, vous savez mieux que moi, c'est le pétrole et le gaz d'une part, et d'autre part, l'alcool. Tout était réuni. À ce moment-là, tout était foutu. Je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est qu'il a fait aussi une erreur en 86 quand il a, vous dites idéaliste. Il était idéaliste parce qu'il a pensé qu'il va donner l'autonomie aux directeurs des entreprises, ils vont transformer le pays, etc. Ces gens-là, ils commençaient à voler le pays comme jamais. C'était porté au pinacle avec ce président pitoyable. Les Russes disent aujourd'hui ton régime vichysois à propos d'Eltsine, quand ils ont volé la Russie comme jamais dans l'histoire du monde, avec la complicité totale de l'Occident, c'était dans les années 90, et finalement ça a donné après le résultat qu'on connaît, Poutine et le fait que les Russes se détournent aujourd'hui de l'Europe. Ils ne désirent pas du tout l'Europe. Gorbatchev, c'était le message pro-européen. Alors, les Russes aujourd'hui, ils regardent l'Europe avec étonnement, sinon avec le mépris. Ce n'est pas seulement la gestion nulle de coronavirus, mais aussi le fait que l'Europe est une nation passée valeur, etc. 80% des Russes ont été pro-européens au moment de Gorbatchev, seulement 20%. Dans les meilleurs des cas aujourd'hui, ça en dit long sur la transformation et sur le fait qu'on a connu le désastre post-communiste qui a poussé la Russie dans les bras de la Chine, parce que on a l'Occident, comme résultat de ça, a poussé la Russie dans le bras de la Chine et on assiste à une rupture définitive aujourd'hui entre la Russie et l'Europe. Tout le contraire de messages pro-européens de Gorbatchev.
Est-ce que la nomenclatura a empêché, en quelque sorte, a étouffé ce régime et ses volontés de changement ?
Ça, je vais vous dire, l'histoire est très dure. Parce que, vous comprenez, Eltsine porte une grande responsabilité. Parce que, au-delà de rivalité, c'était des rivaux, mais Eltsine cherchait le pouvoir, c'est tout. Il y a les gens qui complètement dingues, ça arrive, les gens cherchent le pouvoir, la notoriété, il y a les blogueurs en Russie qui cherchent un truc, tout ça, c'est les choses qui sont connues. Je voudrais vous dire, Eltsine, il a conclu, il m'a dit ça le jour de la fin, moi j'étais porte-parole des antipoutchistes à l'époque avec Eltsine, on a bien bu, et à la fin, au moment de la chute du communisme, c'était le 21 août, je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire. Il m'a répondu, je vais les nommer milliardaires. Je vais les nommer milliardaires, c'est-à-dire l'ancienne nomenclature était nommée par Eltsine consciemment pour milliardaires. Et ce qu'ils ont volé, c'est inimaginable. Vous connaissez ça un peu en Belgique, mais il faut se rendre compte que l'industrie était détruite. 2% de la population, encore aujourd'hui, il détient les richesses, plus de 60% du pays les richesses. 2% détient les richesses et 50% des gens frôlent le seuil de pauvreté. C'était ça, ce président pitoyable, dont le message, au-delà de ses côtés pittoresques, vous vous souvenez, quand il y a Clinton hilar face à Eltsine complètement givré, c'est une image que les Russes gardent comme symbole de cette période. C'est pour ça que les gens nostalgiques d'Eltsine, par exemple Navalny, etc., autour de lui, ils n'ont aucune chance, parce que dès qu'on parle de cette période, les Russes disent jamais. Ils ne désirent plus l'Europe. Ils disent l'Europe, c'est terminé. Pour nous, le continent de l'avenir, c'est l'Asie, et on va travailler avec la Chine. C'est aussi une discussion que vous avez si pertinemment posée, que les Chinois disent qu'ils ont eu raison de, vous savez, utiliser la terreur, stabiliser le régime politiquement et continuer à faire l'ouverture économique. Tout ça, c'est le vrai problème du monde aujourd'hui, et aussi du monde de demain. Parce que si on continue vers ce qu'on vit aujourd'hui, je vous prédis vraiment quelque chose de très dangereux, parce qu'on est sur la pente guerrière aujourd'hui.
Vous pensez vraiment que nous sommes plus qu'à l'époque de la guerre froide encore sur une pente à grand risque ?
Moi, j'étais diplomate pendant la guerre froide. Et mon problème, c'est que je les ai tous connus. C'était les gens hyper professionnels, Kissinger, Gromyko, vous savez, ils savaient jusqu'où on peut aller, et surtout, ils faisaient la distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui, il y a un mélange de genres terrible, terrible. Il y a les trucs, quand je regarde, les analyses ne sont pas pertinentes. Les Russes ne désirent plus, ils veulent oublier l'Europe aujourd'hui. Ils veulent travailler avec la Chine, avec les sanctions. Les sanctions, c'est côté pittoresque. D'ailleurs, ces sanctions, ça fait profiter l'agriculture russe, etc. Mais surtout, les Russes sont persuadés qu'il faut vraiment, tourner la page européenne, il y a une sorte d'isolationnisme dans la Russie, surtout l'orientation vers l'Asie. Et ça, c'est très dangereux, vous avez eu raison de souligner ça. Parce que vous comprenez, on a créé artificiellement, mais je pense que c'était réversible entre nous, on a créé artificiellement l'alliance anti-occidentale entre la Russie et la Chine. Et la Chine, c'est la démographie, c'est l'économie, mais l'arrogance occidentale a mal analysé la transformation militaire de la Russie. La Russie, dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, la première dans le domaine militaire. Alors tout ça, ça crée le monde encore plus dangereux. Et au lieu d'avoir le dialogue, l'équilibre des intérêts, pour reprendre le mot de Gorbatchev ou de Mitterrand de l'époque, on a créé le monde encore plus dangereux avec les répercussions que vous vivez à Bruxelles, quand vous vous baladez dans Bruxelles, quand dans les quartiers avec Burka, tout ça, que vous connaissez par cœur, les Russes en Bruxelles, ils regardent, c'est ça l'Europe, ils tournent la page, vous comprenez? Tout ça, ça nous incite à réfléchir, et Gorbatchev, c'est un bon prétexte, parce que Gorbatchev voulait créer le monde meilleur, en posant les vrais problèmes. Il n'a pas réussi, mais comme je dis, c'était un grand acteur de la tragédie de l'histoire et aussi de l'espoir.
Est-ce que l'ancien diplomate que vous êtes, Vladimir Fedorovski, est parti déçu de cette aventure avec Gorbatchev ?
Moi, je ne suis pas déçu parce que c'est la meilleure période de ma vie, vous comprenez. Pendant 6 ans, on a transformé le monde. Franchement, j'étais beaucoup plus réaliste face à l'Occident parce que je savais qu'il y a un grand philosophe et dissident russe, Zinoviev, très en vogue aujourd'hui. Il me disait à l'époque, ils visent l'Union soviétique, ils visent le communisme. Dans la réalité, ils vont tirer sur la Russie. Et ça, je savais, par exemple, quand il y avait la réunification, je demandais qu'on fasse un traité, ça, qu'on ne peut pas fier aux paroles occidentales. Et d'une manière générale, moi, je connaissais mieux que quelconque l'Occident. Et je savais qu'en Occident, il y a des gens pertinents, mais j'ai senti déjà cette pente intellectuellement baissante dans la diplomatie, dans beaucoup de domaines. J'ai senti aussi ce truc politiquement correct qui tue aujourd'hui l'Europe. Tout ça, c'était sensible. L'aventure de Gorbatchev ne m'a pas déçu. Vous savez, on a créé notre monde. C'est un message pour l'éternité.
Est-ce que lui-même, à votre estime aujourd'hui, à ce que vous en savez, est-ce que Gorbatchev est amer?
Oui, il est amer, bien sûr. Il est amer parce que, vous savez, il n'a jamais pensé que l'Union soviétique pensait que c'est transformable. Il pensait qu'il va créer une confédération, qu'il y aura une association entre la Russie et l'Europe, qu'il y aura une association entre l'Europe et la Russie basée sur les choses banales, comme disait De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est quoi? C'est le gaz et le pétrole russe contre la technologie occidentale avec le potentiel intellectuel et les grandes affinités que vous ressentez chaque jour que grâce à Tolstoï, Dostoïevski et les ballets russes. Tout ça, c'est les affinités absolument contestables qui existent en Europe. Et ça, c'est un pari raté, mais c'est un pari de l'avenir. Je vous dis très sincèrement, si l'Europe veut survivre aujourd'hui, si la Russie veut survivre, il faudra renouer avec la réflexion de Gorbatchev et bien entendu d'Alexandre Yakovlev, inventeur de la perestroïka.
Merci pour ce témoignage, Vladimir Fedorovski. Le roman vrai de Mikhail Gorbatchev, vous le publiez chez Flammarion. Merci de nous avoir relu cette page d'histoire.
Merci à vous.
Je reste fidèle à mes principes, ceux qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. J'ai fermement défendu l'autonomie, l'indépendance des peuples, la souveraineté des républiques. Mais je défendais aussi la préservation d'un État de l'Union, l'intégrité du pays. Les événements ont pris une tournure différente. La ligne du démembrement du pays et de la dislocation de l'État a gagné, ce que je ne peux pas accepter. Néanmoins, je ferai tout mon possible pour que les accords qui ont été signés conduisent à une entente réelle dans la société et facilitent la sortie de la crise et le processus des réformes.
Le fin mot sur la première.